Chapitre 11. Le réveil du géant. J'ai avancé pas à pas à travers les bureaux et les couloirs du bâtiment. Il y avait des dossiers, des classeurs, des parchemins partout. On avait l'impression que ce fouillis s'entassait là depuis 3 siècles. Ça empestait la poussière et la moisissure. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, j'examinais les murs avec l'espoir d'y découvrir un plan de la ville. Parfois, les employés grognaient dans leur sommeil. En y regardant de plus près, j'ai vu que leurs doigts, longs et maigres, se terminaient par d'affreuses petites griffes. Ça ne m'a pas plu du tout. « Dépêche-toi, radotait la valise. Le temps presse. En ce moment même, la réveilleuse émerge de la rivière. Elle s'ébroue et essore ses cheveux. Dans 10 minutes, elle sortira la seringue de l'étui de fer et piquera le géant au mollet. Mon estomac s'est serré. Je n'avais aucune envie de me retrouver au milieu de ces vilains bonhommes à face lunaire quand ils se réveilleraient. Tout à coup, une créature noire a surgi de nulle part pour me barrer le chemin. J'ai poussé un cri. C'était une espèce de bonhomme goudronneux qui, après m'avoir regardé sous le nez pendant 3 secondes, m'a flanqué une paire de gifles avant de s'éloigner. Les joues me cuisaient, mais la surprise avait été telle que je suis restée immobile, sans réaction. « Qui était-ce ? » ai-je balbutié. « Il n'aurait pas dû dormir comme les autres ?»« Non, » a fait la valise, « il ne s'agit pas d'un employé. Tu viens de croiser une idée noire. Quoi ? Tu connais l'expression « avoir des idées noires », non ? Ne voir que le mauvais côté des choses. Le géant est comme tout le monde, il lui arrive d'être déprimé. Depuis qu'il dort, les idées noires prolifèrent en toute liberté. Elles sont à l'origine de son vieillissement accéléré. En temps normal, les gardes les exterminent au fur et à mesure. Mais comme ils dorment aussi, les idées noires en profitent pour se répandre à travers la ville. Elles font des trous dans les tuyaux, scient les câbles, sabotent les machines. À cause d'elles, le géant fonctionne de moins en moins bien. Il vieillit? Oui, c'est la définition qui convient. J'ai repris mon exploration, mais au détour d'un couloir, une nouvelle idée noire m'a fait un croche-pied et je me suis étalée de tout mon long. Nom d'un haricot bleu, ai-je grondé. Il y en a donc partout. Oui, a soupiré la valise. Et plus le temps passera, plus elles seront nombreuses. À tout hasard, j'ai ramassé une règle en bois sur un bureau et je me suis promis d'en flanquer un grand coup à la prochaine idée noire qui pointerait son nez. Ça n'a pas tardé. L'une d'elles est sortie de dessous une table pour me mordre le mollet. Je l'ai frappée sur la tête, ça ne lui a pas fait le moindre mal, et j'ai dû m'enfuir. Ses crocs avaient troué mon pantalon et ma peau. Je saignais, comme si j'avais été mordu par un rat. Enfin, au dernier étage, j'ai trouvé punaisé sur un mur le plan anatomique du géant. Au fond du gouffre qui lui tenait lieu d'estomac, un château était dessiné. Au-dessous, on avait écrit « Centre de stockage des émotions ». « C'est ça !» a triomphé la valise. « La colère est une émotion !» J'ai arraché le plan. Je l'ai plié en 4 avant de galoper vers la sortie. Il m'a semblé que les employés grognaient un peu trop dans leur sommeil. Peut-être sentent-ils l'approche de la réveilleuse, a suggéré la mallette. Je suis sortie du château de la pensée pour retrouver la rue déserte. J'ai traversé la place afin de m'approcher du bord de la falaise. De là, on dominait l'abîme, en fait, la poitrine et le ventre du géant. Des passerelles en zigzag permettaient d'y descendre progressivement. Chaque fois qu'on arrivait au bout d'un pont, il fallait en prendre un autre, situé un peu plus bas, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, on arrivait au fond du gouffre. J'ai posé le pied sur la première de ces fichues passerelles. Tout de suite, le vent l'a secoué comme s'il espérait me pousser dans le vide. J'avais l'impression d'explorer un précipice par une nuit sans lune. J'ai encore dû enjamber des gens qui dormaient en travers de mon chemin, là où les vapeurs du somnifère les avaient surpris. L'embêtant, c'est que les idées noires s'étaient répandues jusque-là. Agenouillées, elles rongeaient les cordages retenant les passerelles pour les faire s'écrouler. Je les ai frappées avec la mallette sans obtenir de résultat. Elles semblaient insensibles à la douleur. Leurs dents tranchantes cisaillaient les câbles en produisant un horrible petit bruit de lime. Si les passerelles s'effondrent, ai-je pensé, je ne pourrai jamais revenir sur mes pas. Peu à peu, je me suis rapproché du fond. La lueur des réverbères m'a guidé vers le centre de stockage des émotions. Des soldats en gardaient les abords, mais ils dormaient, comme tout le monde dans ce pays de fous. Ils étaient équipés de grands sabres, trop tranchants à mon goût. « Ce sont des traqueurs de virus », a commenté la valise. « S'ils se réveillent, ils te tailleront en pièces, car ta place n'est pas ici. Ne lambine pas. Il faut qu'on soit reparti avant que les idées noires n'aient détruit les passerelles. » Une espèce de brouillard rosâtre flottait au ras du sol. J'ai reniflé, ça empestait la pomme. « Attention !» a lancé la mallette. « Ce sont les vapeurs du somnifère. Si tu les respires, tu vas t'endormir, toi aussi. Retiens ton souffle et ne remue pas trop les pieds. Ça ferait monter la brume jusqu'à ton nez. » L'odeur de compote me flanquait la migraine. Pour un peu, je me serais allongé sur un banc public. La somnolence me gagnait. Je devais m'éloigner de cet endroit. J'ai poussé la porte du château des émotions. Il y faisait sombre, comme partout ailleurs. Une ampoule jaunâtre éclairait le hall. Là aussi, les employés ronflaient par terre, au milieu des paperasses leur ayant échappé des mains. J'ai suivi les panneaux indicateurs jusqu'à une première salle. Sur la porte, il y avait écrit « Centre de la joie ». J'ai collé mon nez à la vitre. C'était un dortoir avec des centaines de couchettes superposées. Sur chaque couchette dormait un clown aux habits bariolés. J'ai estimé qu'il y avait là au moins 300 clowns. J'ai demandé « À quoi servent-ils ?»« À répandre la joie à travers le corps du géant », a répondu la valise. Le moment venu, ils sortent du bâtiment et se mettent à courir à travers la ville en riant. Alors la joie envahit le géant et il est heureux. Un peu plus loin se tenait une autre salle, le centre de la tristesse. Un dortoir encore, mais rempli de bonhommes gris à la figure grimaçante. Rien qu'à les regarder, on avait envie de pleurer. Le principe est le même, a chuchoté la mallette. Lorsqu'ils envahissent la cité, le géant se sent déprimé. Ne t'attarde pas, ces créatures ne nous intéressent pas. J'étais tout de même fasciné. À l'étage du dessus, j'ai trouvé le centre de l'amour. Cette fois, des filles très belles occupaient le dortoir. Elles souriaient en dormant, comme si elles faisaient des rêves agréables. Grimpe, grimpe, m'a ordonné la valise, tu perds du temps. La réveilleuse vient de sortir la seringue de son étui. Enfin, au sommet du bâtiment, j'ai déniché le centre de la colère. Une tête de mort avait été peinte sur la porte métallique fermée à clé. Sur la pancarte, on pouvait lire « Danger. Accès interdit aux personnes non autorisées. Défense d'ouvrir la porte sous peine de déclencher une catastrophe. J'ai jeté un coup d'œil à travers le hublot perçant le battant. Le dortoir était occupé par des soldats en uniforme rouge, à la méchante figure. Ils grinçaient des dents en dormant et étreignaient nerveusement la poignée de leurs sabres. J'ai bredouillé. Ils n'ont pas l'air commodes.
Ils ne le sont pas,
a confirmé la mallette. S'ils se réveillent, ils bondiront hors de cette salle pour envahir la ville. Ils donneront des coups de sabre partout, ce qui aura pour effet de mettre le géant de mauvaise humeur. Il entrera alors dans une rage folle. Comment faire pour les empêcher de sortir? Ai-je gémis. Ils sont au moins 500.
Comme tu peux le constater, la porte est très solide. C'est une porte magique que personne ne peut forcer. Et elle est fermée à clé. Si tu t'empares de cette clé, les employés du château des émotions seront incapables de libérer les soldats rouges lorsque le géant se réveillera. Tu dois trouver cette clé. Dès que tu auras mis la main dessus, nous nous dépêcherons de remonter à l'air libre. Les soldats resteront prisonniers du dortoir et le colosse ne se mettra plus jamais en colère. Tu comprends?
Oui, mais où se trouve la clé?
Aucune idée. Cherche. Au même moment, une sorte de gémissement s'est fait entendre. C'était une plainte encore faible, mais ininterrompue, qui résonnait à travers la cité.
J'ai hoqueté. C'est quoi?
Ça y est, a haleté la valise. La réveilleuse vient d'injecter l'élixir de réveil dans le corps du géant. Le produit est en train de se répandre à travers les canalisations qui lui tiennent lieu de veine. Cette plainte, c'est le bruit des sirènes d'alarme qui se réveillent lentement. Des détecteurs ont repéré ta présence. Pour le moment, ils sont encore trop ensommeillés pour que leur mugissement force les employés à ouvrir les yeux. Mais ça va venir. Plus le temps passera, plus la sonnerie deviendra puissante et tout le monde se réveillera. Tu dois te dépêcher avant que les soldats n'émergent du sommeil. J'ai levé les yeux. Au-dessus de ma tête, un gros haut-parleur en forme d'entonnoir meuglait doucement.
Les choses risquaient de se compliquer dès que ce bourdonnement d'abeilles fatiguées se changerait en vacarme.
La clé se trouve sans doute dans le bureau du directeur, m'a suggéré la mallette. C'est par là qu'il faut commencer.
J'ai regardé une dernière fois au travers du hublot. Les soldats rouges dormaient toujours, mais il m'a semblé qu'ils faisaient plus de grimaces qu'une minute auparavant. Le bruit de la sirène les dérangeait déjà, troublant leurs rêves. J'ai couru. Il y avait beaucoup d'escaliers. Un nombre incroyable de couloirs, des portes et des pancartes partout. Un vrai labyrinthe. J'ai enfin déniché le bureau du directeur. Le bonhomme était effondré sur sa table de travail, le nez sur un dossier, un stylo entre les doigts. Derrière lui, au mur, quatre clés pendaient à des clous. Le problème, c'est qu'aucune étiquette ne permettait de les identifier. Il s'agissait, sans aucun doute, des clés des centres de la joie, de l'amour, de la tristesse et de la colère. Mais laquelle était la bonne, hein? Le chef du château des émotions était, lui, capable de les différencier, pas moi. Je les ai décrochées pour les poser sur la table. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. J'ai commencé à paniquer. Dans le couloir, la sirène mugissait plus fort que tout à l'heure. « Je fais quoi ? » ai-je demandé à la valise. « Nom d'un haricot vert, elles sont toutes pareilles. »«
Examine-les, » a marmonné la mallette. « Il doit bien exister des différences. »« Fais vite !» Les dormeurs s'agitent. J'ai eu une idée. Et si je les emportais toutes? Non, Ce serait cruel, a répondu la valise. Les émotions du géant resteraient prisonnières des dortoirs, pour toujours. Ça le condamnerait à n'éprouver aucun sentiment. Il deviendrait un mort-vivant. On ne peut pas faire ça. Tu dois choisir une seule clé. Ben voyons, ai-je pensé. Le mugissement des sirènes me mettait la tête à l'envers. On aurait dit qu'un millier de vaches braillaient dans les rues. Le chef du bureau a remué en marmonnant des mots incompréhensibles. D'ici 5 minutes, il serait réveillé. Mes vertus en restaient calmes, j'ai examiné les clés. La valise avait raison. Quand on les regardait de près, on voyait qu'elles présentaient chacune de menues différences. Ça tenait à certains reflets sur le métal. La première avait des reflets roses, la deuxième était terne, la troisième scintillait, la dernière semblait rouge comme le cuivre. J'ai compris. La première ouvrait le dortoir de l'amour, la seconde celui de la tristesse, la troisième celui de la joie. Quant à la dernière, c'était forcément celle du centre de la colère. « Je l'ai, ai-je triomphé. Ne la lâche pas, a soufflé la mallette, et sors d'ici sans attendre. Ils sont tous en train de se réveiller. » La clé de cuivre dans une main, la valise dans l'autre, j'ai galopé au long des couloirs et des escaliers pour gagner la sortie. Un peu partout, les employés grognaient en s'agitant. Certains essayaient même de s'asseoir. Ils bâillaient, les paupières encore closes. L'une des sirènes d'alarme a proclamé « Attention, attention, un corps étranger a été détecté dans l'enceinte de la ville. Il s'agit d'un virus dangereux. Ordre à toutes les unités de l'intercepter et de le détruire. » C'est de moi qu'on parlait. Quand j'ai bondi hors du château des émotions, les gardiens se redressaient. Encore somnolents, ils cherchaient leur sabre à tâtons. J'en ai profité pour courir en direction de la passerelle. À présent, il me fallait remonter de pont en pont jusqu'à l'oreille du géant. Je tremblais de peur à l'idée que les idées noires avaient peut-être réussi à détruire plusieurs passerelles, m'empêchant de sortir des abîmes. « Vite, vite !» glapissait la valise. Le brouillard parfumé à la pomme avait disparu, signe que l'élixir de réveil était au travail. La sorcière avait mené sa mission à bien. Le produit magique coulait maintenant dans toutes les canalisations de la cité intérieure. Ses vapeurs combattaient celles du somnifère. J'ai réalisé qu'il était beaucoup plus difficile d'utiliser les passerelles pour remonter que pour descendre. En outre, quelque chose de bizarre était en train de se produire. La clé devenait chaude dans ma main. Je veux dire, très chaude. Comme si on venait de la sortir du four. Je l'ai dit à la valise. Elle a répondu. C'est un système de sécurité. Plus tu t'éloigneras du château des émotions, plus la clé deviendra brûlante. De cette manière, personne ne peut la sortir du géant. C'est assez malin. J'ai grogné. Peut-être bien, mais ça me brûle les doigts. Enveloppe-la dans un chiffon. Je me suis arrêtée pour ôter mon t-shirt. J'ai fourré la clé dedans et repris mon escalade. Au troisième pont, j'avais les jambes coupées et le souffle me manquait. La ville avait cessé d'être silencieuse. Un peu partout, des cris s'élevaient. Les sirènes d'alarme signalaient tous mes déplacements. Elles disaient « Le virus se trouve au niveau du pont numéro 4. Le virus emprunte la passerelle numéro 3. » C'était agaçant. Ce que je redoutais le plus s'est produit. Alors que je sortais du pont numéro 3, 2 soldats se sont avancés vers moi pour me barrer la route. Ils traînaient de longs sabres et d'insolents.
Heureusement, ils étaient à peine réveillés. Leurs paupières avaient du mal à rester ouvertes et ils bougeaient au ralenti. Je me suis faufilée entre eux alors qu'ils essayaient péniblement de lever leurs lames. Ça m'a sauvé la vie. S'ils avaient eu les yeux ouverts, ils m'auraient coupé en tranches sans l'ombre d'une hésitation. « Alerte, alerte !» ont encore hurlé les sirènes. Le virus a volé la clé du centre de la colère. Ordre à toute la population de se mobiliser pour l'intercepter. Je répète. Ça ne rigolait plus. Des gens à la démarche de somnambule se sont dirigés vers moi. Avec leur face de lune, ils ressemblaient à des morts-vivants. Ils essayaient de m'attraper au passage. Leurs affreuses mains, molles et griffues, laissaient des estafilades sur mes bras. Heureusement, la somnolence les privait d'une partie de leur force et aucun d'eux n'a réussi à m'immobiliser. Une odeur de tissu brûlé est montée à mes narines. C'était le t-shirt enveloppant la clé qui brûlait. J'ai dû le jeter par terre et le piétiner pour éteindre les flammes. La clé était maintenant si chaude que je ne pouvais plus la tenir dans la main. J'ai eu une idée. Je l'ai posée sur la valise et j'ai pris celle-ci entre mes bras comme un plateau repas. De cette manière, j'étais protégée des brûlures. J'ai dû éviter encore deux gardes. Cette fois, ça a été moins facile car ils bougeaient plus vite. L'une des lames m'a frôlé le nez. Enfin, je suis arrivée à l'étage du château de la pensée. À présent, la clé de cuivre brillait comme si on venait de la sortir du feu. Sa chaleur se communiquait au métal de la valise. J'ai traversé la place en courant pour gagner le tunnel menant à l'oreille droite. Il faisait beaucoup moins sombre et j'ai eu l'impression que le jour se levait. C'est le géant, a expliqué la mallette. Il est en train d'ouvrir les paupières. La lumière du dehors pénètre dans ses yeux. Je me suis engouffrée dans le tunnel, poursuivie par les employés du château de la pensée, dont les doigts griffus essayaient de m'agripper. J'ai failli tomber 10 fois dans le canal de l'oreille et repartir en arrière, cul par-dessus tête. Vous avez déjà essayé de prendre un toboggan à l'envers? Je peux vous assurer que ça n'a rien de facile. Enfin, j'ai émergé à l'air libre. Mon premier mouvement a été de jeter la clé brûlante au loin avant que la valise ne devienne aussi chaude qu'une poêle à frire. Elle a tourbillonné dans les airs, scintillant tel un morceau de cuivre en fusion, puis s'est perdu au milieu des taillis et des ronces. Je me suis prise à espérer que personne ne la retrouverait. Bon, j'avais réussi ma mission. D'ici 10 minutes, le géant serait réveillé, mais comme il lui serait impossible de se mettre en colère, le village serait épargné. Je me suis laissée glisser jusqu'au sol. Au-dessus de moi, le colosse bâillait et grognait en battant des paupières. Alors que je me préparais à m'enfuir, une idée de génie m'a traversée. J'ai tiré de mon sac à dos la bouteille thermos contenant Poppy et j'ai posé le pied sur la cape magique. J'ai vu Mélanie, la pharmacienne, passer en courant, les bras chargés de bijoux et de pierres précieuses. D'autres la suivaient de près, remorquant eux aussi leurs richesses. J'ai débouché la bouteille et versé le liquide sur la cape. « Je veux que Poppy redevienne comme elle était avant » ai-je crié. En même temps, je me maudissais d'avoir laissé à la maison la carte postale dans laquelle mes parents étaient retenus prisonniers. Mais j'avais eu peur de l'abîmer en l'emportant dans la forêt. Voilà pourquoi je l'avais rangée dans le livre posé sur ma table de chevet avant de partir. Quel manque de chance! Au bout de 10 secondes, Poppy s'est matérialisée sur la cape. La vraie Poppy, pas la princesse aux blonds cheveux, qui nous avait tellement cassé les pieds lors de notre équipée à la rivière. Bon, ça fonctionnait. Sans attendre, j'ai galopé ventre à terre jusque chez moi pour aller chercher la carte postale ensorcelée. Avec un peu de chance, le géant serait encore là lorsque je reviendrai. Hélas, ça n'a pas marché comme je l'espérais. Alors que je sortais de la maison, la carte postale serrée sur mon cœur, le géant s'est brusquement levé en s'étirant. Il a bâillé à la manière d'un lion qui rugit, puis il a secoué sa cape pour la débarrasser des constructions que les gens du village avaient entassées dessus. Un seul coup a suffi à réduire en miettes les châteaux, les palais, tirés du néant par magie. Je me suis figée. Le géant m'a regardé droit dans les yeux. Je pense qu'il était en train de se rendre compte qu'on l'avait piégé. Normalement, il aurait dû entrer dans une épouvantable colère et nous piétiner. Heureusement que j'avais volé la clé du dortoir des soldats rouges. Sinon, j'aurais été la première à finir aplatie. Finalement, il a haussé les épaules, a tourné les talons pour s'enfoncer dans la forêt. J'ai crié « Attends !» en brandissant la carte postale, mais il ne m'a pas écouté. Les arbres se sont refermés derrière lui et je me suis retrouvée comme une idiote, mon bout de carton à la main. Je me suis mise à pleurer. Alors Poppy, la vraie Poppy, celle d'avant, est sortie du nuage de poussière soulevé par la cape. Elle s'est approchée de moi et m'a prise dans ses bras. On a pleuré longtemps, toutes les deux, à la fois de joie et de chagrin. Bon, ça sert à ça, les copines.